Commençons d'abord, comme à notre habitude, par la prière. Seigneur, tu nous as déjà parlé. Ta parole est déjà rentrée dans notre cœur. Seigneur, ne nous abandonne pas. Sans toi, nous sommes perdus. Ne nous laisse pas dans notre monde. Fais-nous grâce. Ouvre-nous les yeux sur ce que tu as accompli à la croix. Ouvre mes yeux sur le sacrifice. Quelle est sa profondeur? Quelle est cette valeur du sang précieux versé sur la croix? Pourquoi t'as accepté de mourir à ma place, jusqu'à épouser la mort, toi qui ne méritais pas? Quel est le sens de cette résurrection, de cette ascension, de ce règne? Que veux-tu de ton Église? Puisque la Bible nous dit l'Église, c'est toi. Montre-nous si quelque chose ne va pas, Seigneur, que nous puissions te le confesser. Une chose que nous ne voulons pas, c'est que nous courons pour rien. Apprends-nous à nous arrêter pour t'écouter, discerner ta voix et partir de bon pied, avec toi, concret en toi. Je t'en supplie, Seigneur, de le faire, à ta méthode, selon ta volonté. Merci pour ce message que tu partages avec nous ce matin, qui vient d'un frère chrétien. Que ces paroles touche notre cœur, nous touche profondément, nous interpelle pour que nous puissions être meilleurs, que tu puisses être fier de ton Église. Je le demande en ton saint nom. Amen. Amen. Je me posais des questions pas mal de jours, et c'est ça l'amour fraternel, j'apprécie beaucoup. C'est quand on ouvre son cœur à son frère, que ce soit Jean-Louis ou Didier, je ne peux pas parler à tout le monde, que ce soit Toby les mardis. Qu'est-ce que j'apprécie ces moments? Nous parlons librement, nous dévoilons ce que nous avons dans le cœur, et ensemble, nous prions. Et le Seigneur répond. C'est extraordinaire. Il faut qu'on le vive ensemble. Toute l'Église vive ensemble. J'avais tellement de questions. Et on discute avec les frères et sœurs. Et même les enfants nous éclairent. Le Seigneur utilise des fois les enfants. Et ils ne se rendent même pas compte, les enfants. Oui. Je me questionnais aussi sur un sujet où je disais, mais tous mes messages, mais oh Abdel, c'est quoi tes messages? Les gens, tu vas leur parler, ils veulent sortir joyeux, bah, tu leur donnes un message, ils pleurent. Et je me suis remis en question devant le Seigneur. Seigneur, mais j'ai envie de parler de paix, de joie. Quand on sort d'ici, on a envie de danser, on a envie de chanter. Et le Seigneur m'a amené vers un message. Il m'a parlé profondément. Je l'ai lu deux fois, peut-être trois fois. Qui vient d'un frère que vous connaissez, David Wilkerson. Je vous conseille d'écouter ce message. En entier, il est sur le site. Le titre, c'est « Un appel à l'angoisse ». Oh, excusez-moi. Ce ne sera pas la joie. Non, oui. Le Seigneur m'a amené vers ce message-là, qui m'a parlé. Et en fin de compte, laissons le Seigneur faire. Ne définissons pas, nous, des sujets. Et à travers ce message-là, je vous assure, quand je l'ai fini, je ne peux pas être normal. Je vais vous lire juste une partie, mais tout le texte, donc c'était transcrit, c'était oral, je l'ai laissé sur le site, sur le blog de l'Église. Je vous invite vraiment à le lire entièrement. Wilkerson, c'est un pasteur américain, vous avez entendu parler. On le connaît surtout par un film. C'est issu d'un livre, La Croix et le Poignard. Et le message que je vais vous lire là, date de 2002, qu'il a donné dans l'église, quand Dieu a permis qu'il fonde dans le Bronx. Donc ce message, il est donné dans l'église que Dieu a permis qu'il installe dans un coin où, si vous regardez le film, vous verrez bien que c'était pas si facile que ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'aller annoncer l'Évangile, à moins d'être fou. Le message se base sur le premier chapitre du livre de Néhémie que Ryan nous a lu au début du culte. Donc je vous invite à lire aussi ce chapitre 1. Et il s'agit du peuple élu, déporté à Babylone. Et Dieu utilise Néhémie et Esdras dans la prière pour que Dieu permette le retour de ce peuple à condition qu'il y ait de la repentance. Je vous lis. Donc, David Wilkerson, juste pour vous dire, il est né en 1931, il est décédé en 2011. Voilà. Et son épouse l'a suivi un an après. Je vous lis. Donc, le message date du 15 septembre 2002. Voilà. Ce serait pour moi difficile de prêcher ceci. Si je devais me fier à ma propre chair qui me dit que je suis, qui je suis. Je prêche trop de messages durs. Il y a eu des moments dans le passé où j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, ne peux-tu pas me donner un message joyeux ?» C'est la question qui s'est posée aussi. Alors j'ai dit, tiens, sa réponse, je vais lire le reste. « Seigneur, » c'est David qui parle, « Seigneur, je ne peux pas, je suis trop âgé pour jouer, pour perdre du temps en absurdité. Et je suis fatigué des rhétoriques qui n'ont aucun sens. » Et qui ne change jamais rien. Seigneur, aide-moi seulement, aide-moi. Les amis, je suis fatigué d'entendre parler de réveil. Je suis fatigué d'entendre parler du renouveau, de l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. J'ai entendu cette rhétorique pendant 50 ans. C'est juste de la rhétorique. Cela n'a pas le moindre sens. Je suis fatigué d'entendre parler des gens dans l'Église qui disent qu'ils veulent que leur bien-aimé soit sauvé. Je suis fatigué d'entendre les gens dire « Je me fais du souci pour mon mariage en crise » quand ce ne sont que des mots. C'est de la rhétorique. Je ne veux plus entendre les discours qui décrivent à quel point l'Amérique, on peut dire la France, l'Amérique est devenue immorale. Combien la société est devenue impie, combien les affaires sont devenues corrompues. Abat toutes nos conférences sur le monde. Comment faire ceci ou faire cela? Parce qu'elles n'accomplissent rien. Comment faire face à telle chose? Comment construire une plus grande église? Comment toucher les perdus? Comment améliorer les talents de vos chrétiens? Ou comment avoir un impact sur le monde de cette époque d'ordinateurs? Quand j'observe toute la scène religieuse d'aujourd'hui, tout ce que je vois, ce sont des inventions et des ministères humains et charnels. Et je vois davantage le monde rentrer dans l'Église et avoir un impact sur l'Église que l'Église avoir un impact sur le monde. Je vois que la musique prend le contrôle de la maison de Dieu. Je vois la distraction envahir la maison de Dieu et l'obsession pour les divertissements dans la maison de Dieu. Dites-moi donc, combien d'églises avez-vous visitées récemment? Combien d'églises connaissez-vous où lorsque vous y pénétrez, le Saint-Esprit agit de façon si forte que chacun de vos péchés est ramené devant vos yeux par la grâce pleine d'amour de Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous avez été à l'église et vous avez vu les jeunes sous telle conviction de péché parce que le peuple de Dieu a eu le visage contre terre? Et qu'il y a un tel fardeau, qu'il y a une telle agonie que les jeunes gens tombent sur leur face invoquant Dieu parce que des chrétiens ont réclamé au Seigneur qu'il répande du ciel la conviction du péché? Dans combien d'églises avez-vous été dernièrement où vous avez entendu une parole qui brûlait au fond, si fort dans votre âme que vous saviez qu'elle venait du cœur de Dieu? J'espère que vous l'entendez ici. Qu'est-il donc arrivé à la tristesse intérieure dans la maison de Dieu? Qu'est-il donc arrivé à l'angoisse dans le ministère pour que vous n'entendiez pas parler de cette époque où l'on vit aux petits soins? vous n'entendez pas parler. L'angoisse, la tristesse intérieure, l'angoisse signifie douleur intérieure extrême. L'émotion est si vive qu'elle devient douloureuse, aiguisée. C'est une douleur intérieure profondément ressentie à cause de votre condition. L'angoisse, une profonde douleur et le chagrin, et l'agonie du cœur de Dieu. Nous nous sommes cramponnés à notre rhétorique religieuse et à tous nos discours sur le réveil. Mais nous sommes devenus si passifs que nos soi-disant réveils, nos émois, ne sont que de très courte durée. Et lorsque les réveils et le renouveau de courte durée viennent de la main de Dieu, ils sont de si courte durée. Et dans ces moments, nous promettons à Dieu que nous ne retournerons plus jamais à nos passivités. Il se passe à peine quelques semaines ou quelques mois et nous retombons. Et cette fois, nous retombons plus bas encore dans la passivité qu'au départ. Je parle par expérience. Et nous disons, cette fois, Dieu, c'est pour la vie que tu m'as touché. Je ne serai plus jamais le même. C'est comme un feu d'artifice. Une forte explosion, beaucoup de bruit et ensuite... ça s'éteint. Toute passion véritable pour Christ naît d'abord de l'angoisse, cette tristesse intérieure. Toute passion véritable pour Christ est issue d'un baptême d'angoisse. Si vous cherchez dans les Écritures, vous trouverez que lorsque Dieu est déterminé à restaurer une situation en ruine, il va se chercher un homme de prière. Il le fait descendre dans les eaux de l'angoisse. Il lui partage sa propre angoisse par rapport à ce qu'il voit survenir dans son église et dans son peuple. Et il se trouvera un homme de prière. Il prendra cet homme et le baptisera littéralement dans l'angoisse. Vous trouvez ceci dans le livre de Néhémie. Jérusalem est en ruine. C'était le centre d'intérêt de Dieu sur la terre en ce temps-là. La ville sainte, elle est complètement dévastée. Et elle est remplie d'iniquité. Des mariages mixtes avec les païens. Ils asservissaient leur propre peuple en faisant des pauvres des esclaves. La maison de Dieu était polluée par des souillures. Le grand sacrificateur était soudoyé par Tobija, un vaurien païen. Et comment donc Dieu va-t-il prendre en main pareille situation? Comment donc Dieu va-t-il restaurer les ruines? Comment fait-il? Que fait-il? Voyez-vous, nous faisons face à une situation similaire à la nôtre. Sauf que la nôtre est mille fois pire. Nous sommes à l'époque où les hommes, selon les prophéties de Jésus, avanceront toujours plus dans le mal. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Bien entendu, parle de 2002, mais on peut l'appliquer aujourd'hui. L'Église est paralysée par toutes sortes d'échecs, agressions d'enfants, incestes, adultères. Il y a trois points. Nous avons une nation, un pays chrétien qui est inondé de films pornographiques, à tel point que le monde entier en rougit. Je crois à l'amour de Dieu. J'ai prêché la miséricorde, la grâce et l'amour. L'amour venant de l'Alliance. Je crois à la prédication de la bonté et de la patience de Christ. Mais des multitudes aujourd'hui sont en train d'être saturées par des sermons qui disent « Tout est en ordre, tout va bien. » Et vous avez des gens maintenant qui sont en train de changer la grâce de Dieu en dissolution. Nous sommes devenus comme les enfants d'Israël qui disaient les bonnes paroles. Mais voici ce que Dieu a dit. J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Deutéronome, chapitre 5, versets 28 et 29. Oh, vous dites de bonnes paroles, vous chantez les bons chants, mais votre cœur n'est pas droit. Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 3. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse. dans la capitale Anani. L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voici la nouvelle qui fut rapportée à Néhémie par une délégation venant de la ville en ruine de Jérusalem. Jérusalem est dévastée, la muraille est dévastée, tout est en ruine, complètement en ruine. Maintenant, ces hommes, je suis certain qu'ils étaient des hommes pieux, mais ils n'avaient pas la moindre idée de ce que Dieu allait faire. Et tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était les ruines, la dévastation, le désespoir et la détresse. Au verset 4, nous lisons, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Voyez-vous, quand Dieu a trouvé un homme de prière, il le plonge dans les eaux du baptême de l'angoisse. Cet homme descend dans l'angoisse. Au verset 6, nous lisons, « Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché contre toi. » Écoutez ceci, mes amis. Néhémie n'était pas un prédicateur. C'était un homme de prière. Il était échanson du roi. Il vivait dans le confort. Il vivait dans la royauté. Il avait des serviteurs, pour ainsi dire. Mais c'était un homme de prière. Et Dieu a trouvé un homme qui n'a pas seulement eu une émotion passagère, quelques soudains sursauts de préoccupation, et qui ensuite le laisse s'éteindre. Il a dit, non, je tombais dans la désolation, et je pleurais, et je m'affligeais, et je jeûnais, et ensuite je commençais à prier jour et nuit. Quand j'entendis la nouvelle, je pleurais. Pourquoi son frère, Anani, et les autres hommes avec lui, n'avaient-ils pas obtenu de réponse, eux qui venaient de Jérusalem? Pourquoi Dieu ne les a pas-t-il utilisés dans la restauration? Pourquoi n'avait-il pas eu aucune parole pour eux? Parce qu'il n'y avait pas eu chez eux le moindre signe d'angoisse. Il n'y avait que de la préoccupation. Pas de larmes, pas une seule parole de prière. Rien que des ruines, c'était tout ce qu'ils voyaient. Est-ce que cela ne vous fait rien du tout aujourd'hui? La Jérusalem céleste de Dieu et épouser le monde? Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Vous n'êtes pas angoissé? Qui est-il? Pourquoi cette telle indifférence qui est en train d'envahir le pays? Il y a tant de personnes de ma connaissance qui étaient des amis à moi et que je vois tomber l'une après l'autre, mari et femme, dans une telle passivité. Elles se rendent dans des églises où elles peuvent trouver des messages légers, ne voulant plus entendre parler de ce qui touche à la colère, à la correction. Cela ne vous fait-il réellement rien que vos biens soient, que vos bien-aimés soient en train de mourir et que nous nous approchions de plus en plus de la fin? Est-ce que vous vous en souciez réellement? Ils peuvent mourir et aller en enfer, en dépit du fait que vous soyez amoureux de Jésus. Où est l'angoisse? Où sont les larmes? Où sont les gémissements? Où sont les temps de jeûne? Combien d'entre vous avez jeûné, prié, le cœur brisé devant le Seigneur? Je parle de l'Église de Jésus-Christ en général. Où sont les gens qui se réveillent en plein milieu de la nuit? Voyez-vous, Néhémie a dit, je priais jour et nuit. Où sont les confessions de vos péchés et ceux de vos enfants? Où sont les confessions des péchés de vos enfants devant le Seigneur ou des péchés de votre conjoint devant le Seigneur? Parce que c'est exactement ce que Néhémie fait. Il confesse ses péchés et les péchés de son peuple. Et en plus, il dit, nous avons péché, j'ai péché. Puis il dit, nous avons péché encore une fois. Lorsque Néhémie a eu écho des ruines et de la destruction de Jérusalem, il n'a pas demandé pourquoi. Pourquoi un Dieu saint et juste a-t-il permis que sa ville tombe en ruine? Pourquoi y a-t-il eu tant de gens dispersés? Pourquoi y a-t-il eu tant de gens tués, assassinés? Il n'a pas posé les questions que nous posons en Amérique aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les tours jumelles tombent et que plus de 2000 personnes périssent dans le crash? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre cela? Mes amis, je vous partage ce que le pasteur Carter a dit aujourd'hui. J'éprouve une sainte colère qui monte dans mon cœur quand j'entends parler des prédicateurs à la télévision ou à la radio. Écoutez ce qu'ils ont dit à la télévision. Oh, Dieu n'avait rien à voir avec ça. Dieu n'avait rien à voir avec ça. Ne le mettez pas sur le compte de Dieu ce qui arrive à l'Amérique. Mais allez donc lire Daniel 9. Lisez Daniel 9, chapitre 9. Et je veux vous dire une fois pour toutes que c'était Dieu qui a permis que l'Amérique se réveille. Dieu ne l'a pas fait. Il n'a pas arrêté le plan de l'ennemi parce qu'il avait un but plus élevé. Parce qu'il aime l'Amérique, qui était en train de glisser vers l'enfer éternel. Je vais baisser le ton, sinon vous allez croire que je suis en colère. C'est lui qui parle. Daniel chapitre 9, verset 5, je lis. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Pourriez-vous dire la même chose à propos de l'Amérique? Et nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté. Et à tout le peuple du pays. Daniel 9, verset 6. Autrement dit, le gouvernement avait été averti par des hommes justes. Daniel 9, verset 7 et 8. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Pourquoi? Et là, nous avons Daniel 9, versets 9 à 12. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sur le sous-ciel entier semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Daniel 9, versets 9 à 12. Au verset 14, l'Éternel a veillé sur cette calamité et il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Maintenant, laissez-moi revenir à mon message. Il y a une grande différence, mes frères et sœurs, entre l'angoisse et le souci et la simple préoccupation. Dieu m'a personnellement fait comprendre cela. Une préoccupation, c'est quelque chose. C'est le plus grand intérêt que vous prenez dans un projet, ou une cause, ou une préoccupation, ou un besoin. Quelque chose qui mobilise une grande part de votre attention, et qui généralement vient à travers un stimulus émotionnel. Vous savez, vous pouvez entendre parler d'une situation comme nous avons entendu Dimanche dernier, parlait de l'Amérique du Sud et des centaines de milliers d'enfants mourant du sida. Et vous pouvez entendre ce que nous avons entendu de la bouche de la sœur Holder cet après-midi, des milliers d'enfants qui meurent en Inde. Et vous pouvez être tout remué de l'intérieur en entendant cela. Vous pouvez ressentir une grande émotion et vous recevez un très lourd fardeau. Mais, mes amis, il y a une grande différence entre préoccupation et angoisse. Parce que, voyez-vous, vous pouvez vous lier à une cause, vous pouvez devenir tout excité à ce sujet, au sujet d'un projet quelconque. Vous pouvez en parler partout autour de vous. Vous pouvez l'exposer publiquement. Vous pouvez en faire la publicité. Vous pouvez le soutenir, l'organiser, y consacrer beaucoup d'efforts. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai appris au cours de toutes mes années, mes 50 années de prédication, que si ce n'est pas enfanté dans l'angoisse, même si cela a été enfanté par le Saint-Esprit, à cause de ce que vous avez vu et entendu des ruines, si cela ne vous conduit pas sur vos genoux dans la prière, ne vous plonge pas dans un baptême d'angoisse, où vous commencez à prier et à chercher Dieu, ça reste une simple préoccupation généralement passagère. Mes amis, cette église, il part de l'église où il prêche ce message, il donne ce message. Mes amis, cette église a été enfantée dans l'angoisse. 6 mois d'angoisse, de larmes, dans une petite ville de Pennsylvanie, où le pasteur d'une petite église a crié, « Oh Dieu, je suis sec et je suis vide. Tu as prévu pour moi plus que cela. Si c'est ça, tout ce que le Saint-Esprit prévoit, je n'en veux pas. » Il y avait un tel désespoir. Semaine après semaine, j'invoquais le nom du Seigneur, confessant ma propre mort et ma stérilité. Et finalement, je suis venu dans cette ville pour faire un tour à pied, à travers les rues. Puis j'ai arpenté la 42e rue. Et je les ai vus en train de vendre une espèce d'héroïne. Là, on le voit dans le film, d'héroïne. En criant, j'ai le truc qui a tué Hélène. Et je me rappelle avoir été saisi par la désolation. Et cela ne m'importait guère, les voitures qui passaient. Je me suis assis sur un escalier de secours, sur le côté d'un immeuble, et j'ai pleuré. Et j'étais dans l'angoisse, dans un endroit situé à 4 pâtés d'immeuble d'ici, à Broadway. J'ai versé des larmes, j'ai pleuré et j'ai gémi. Je ne cherchais pas à avoir un ministère, je ne cherchais pas à construire une église. Je ressentais la douleur de Dieu pour une ville en perdition. Et je n'ai jamais eu autre chose qui ait eu une quelconque valeur aux yeux de Dieu pendant mes 50 années de ministère. Et qui n'ait jamais été enfanté dans l'agonie. Jamais cela aurait été autrement pur. Jamais, jamais, jamais. Autrement, ce serait purement charnel. Mes amis, je me suis rendu dans le reste du monde. Et j'ai entendu le cri de pasteur mort et vide. Certains battant leur propre femme comme des animaux. Et j'ai entendu cette confession. Cela fait des mois entiers que je n'ai pas prié. Cela fait 6 mois que je n'ai pas prié. Et je sais que les serments ne pourront rien y remédier. Je sais que de nouvelles révélations ne feront rien. Je le sais maintenant. Oh Dieu, je le sais. Cela ne fera rien, à moins que je sois dans l'agonie. À moins que je sois dans l'agonie à ce sujet. Je prêche des serments. Oh Dieu, je prêche des serments. Et j'ai dit... Non, il est trop tard, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est fini maintenant mon message. Et tous nos projets, et tous nos ministères, et tout ce que nous faisons. Où sont les moniteurs d'école du dimanche qui pleurent sur les enfants dont ils savent qu'ils ne sont pas là et qu'ils vont en enfer? Partout où je vais, quelqu'un a un projet, quelqu'un a un plan ou un rêve. C'est tout ce dont il s'agit. C'est une idée. Les gens ne viennent pas vers moi avec un cœur brisé. Ils ne viennent pas vers moi après des heures passées à prier, jeûner et gémir. Il n'y a pas de cœur brisé. C'est juste une idée. J'en suis malade. Voyez-vous, une vraie vie de prière commence à l'endroit de l'angoisse. C'est le lieu où des décisions qui vont être vitales pour le reste de votre vie sont faites. Voyez-vous, si vous prenez la résolution dans votre cœur de prier, Dieu va venir et commencer à vous partager son cœur. Il peut vous ouvrir son cœur. Je vous le dis, il y a de la douleur dans son cœur. Mais voyez-vous, il y en a si peu qui entendent. Il va vous montrer la condition de l'Église. Il va vous montrer la condition de votre propre cœur. Il va vous poser une question. Qu'est-ce que cela te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que cela te fait? Maintenant, pour chacun de vous, ici, il se peut que vous n'ayez pas à prendre une décision. Moi, je dois en prendre une. Ou bien vous vous levez de votre lieu d'angoisse et sortez des eaux du baptême d'angoisse en disant « Je peux gérer ça. Je peux à peine supporter une telle situation. Je n'en veux pas. Dieu, j'en ai assez. Je désire seulement être un chrétien ordinaire. Je ne veux pas porter ce genre de fardeau. Je ne veux plus avoir à pleurer sur ma famille. Je veux le saisir par la foi. » Ou bien, vous vous cachez dans le lieu de la communion intime. Et là, vous entendez Dieu vous dire, « Maintenant, tu vas porter mon fardeau. Tu vas être un instrument de restauration. Et si tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre soit un instrument de témoignage pour ta famille, eh bien, fasse le travail, tu te trompes. J'ai enflammé ton cœur, je t'ai donné mon cœur, et j'ai déversé sur toi mon angoisse, et je suis en train de te la faire ressentir et de te la partager. » Afin de t'emmener sur tes genoux. Parce que c'est là que je te donne des paroles de direction. Mes amis, c'est ce qui s'est produit avec Néhémie. Il a fini par sortir des eaux de l'angoisse avec une parole claire que personne n'a pu rejeter. Il a amené une ville et une nation sur leurs genoux. Vous trouvez cela dans Néhémie au chapitre 8. Voyez-vous? Ou bien vous vous éloignez et vous retournez à votre passivité en disant « Je vais seulement être un chrétien ordinaire, je ne veux pas entendre parler de pareilles choses. » Ou bien alors votre cœur commence à s'écrier « Oh Dieu, ton nom est en train d'être blasphémé. On est en train de se moquer du Saint-Esprit. L'ennemi est sorti pour essayer de détruire le témoignage de la fidélité du Seigneur. Et quelque chose doit être fait, il n'est pas possible de ne pas le défier. » Voici ce qu'une sœur m'a écrit la semaine dernière. Cher frère David, j'ai tellement faim du Seigneur, je suis si fatigué des réunions centrées sur le comment faire, c'est entièrement de la pacotille spirituelle. On m'a parlé d'une conférence pour femmes qui semblait-il allait être une grande expérience spirituelle. Alors je me suis rendu avec un groupe de sœurs. Il y avait 15 000 femmes. J'ai été horrifié le premier soir lorsqu'ils ont ouvert la conférence avec un sketch comique. Ensuite, tout est allé de mal en pis. Nous avions été bernés par les responsables. Il n'y avait pas eu une seule prière, pas une seule mention de la prière. Ce fut une farce. J'étais encore plus vide que jamais. Ne cherchant pas les solutions ailleurs, elles sont chez nous. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. De ce baptême d'angoisse, il vient une chose merveilleuse qui survient à ceux qui sont disposés à s'y soumettre. C'est le fait de savoir, de façon instantanée, urgente, la voix de Dieu. Instantanée. Voyez-vous, si vous n'avez pas derrière vous tout un historique de prière, si vous n'avez pas cette disposition à rechercher le cœur de Dieu, mais il ne faut pas désespérer. Eh bien, vous l'obtenez en le lui demandant, tout simplement. Il a dit qu'il donnerait à celui qui demande. C'est quelque chose que vous demandez en disant, « Oh Dieu, je veux faire un pas pour aller vers toi. Je veux connaître ton cœur. » Et lorsque vous commencez à chercher sa face, vous lui permettez de vous briser, de vous malaxer. Vous arrivez à cette communion avec le Seigneur à partir de cette expérience. Voyez-vous, Dieu nous a appelés à vivre dans l'angoisse. C'est l'enfantement, l'angoisse. C'est le sein maternel d'où naît quelque chose que Dieu est en train de préparer, que Dieu voulait accomplir et faire sortir des ruines. Que ce soit restaurer une famille ou autre chose d'autre. Il vous fera descendre dans ce baptême d'angoisse. Tout comme le baptême d'eau, vous émergez, vous sortez. Mais vous allez en sortir avec cette connaissance instantanée de la voix de Dieu. Parce que, voyez-vous, Néhémie, il avait jeûné, prié, il avait gémi, et cela avait laissé des traces sur son visage. Et le roi l'a remarqué, d'ailleurs, parce qu'il travaillait auprès du roi. Il était échansant. Et un jour, il a présenté le vin au roi, et le roi lui a dit, « Pourquoi es-tu si triste? Pourquoi as-tu ce mauvais visage ?» Néhémie n'a pas eu le temps d'aller répondre son cœur devant le Seigneur. Il n'a pas eu le temps, à ce moment-là, de répondre au roi pour lui dire « Donne-moi 3 jours pour aller jeûner et prier. » Non, il a eu une parole immédiate. Le roi lui demande « Pourquoi as-tu un mauvais visage ?» Néhémie répond « Je fus saisi de frayeur instantanée. » Alors j'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi. En d'autres termes, immédiatement il a prié et immédiatement il a reçu la direction. C'est là le résultat glorieux d'un baptême d'angoisse. Seul le serviteur qui est disposé à porter le chagrin du Seigneur a l'autorité et le droit de rappeler à Dieu ses promesses. Nous prêchons l'alliance ici, mais seuls ceux qui connaissent son cœur permettent à Dieu d'apporter la guérison à travers eux. Cela en laissant Dieu pénétrer en profondeur leur âme. Oh Dieu, je ne peux pas faire cela par mes propres forces. Mais je ne vais pas laisser mes enfants descendre en enfer. Je ne vais pas laisser mon mari, ma femme se perdre. Oh Dieu, je ne veux pas continuer à vivre dans cette mort. Oh Dieu, je ne veux plus vivre dans cette tiédeur et cette froide indifférence. Oh Dieu, change-moi. C'est quand vous vous trouvez dans le désespoir devant Dieu, quand vous prenez la ferme résolution de le chercher, c'est alors que vous avez le droit de rappeler à Dieu ses promesses d'alliance. Comme pensée finale, je vais vous poser cette question. Pourquoi Dieu a-t-il partagé à Néhémie son angoisse parmi tous les autres hommes craignant Dieu qui appartenaient au reste d'Israël? Parce qu'il était un homme de prière. Il se trouvait déjà dans la prière. Je sais maintenant qu'il faudra bien plus que des prédications, plus que n'importe quelle révélation. Il n'y aura aucun renouveau, aucun réveil, à moins que nous ne soyons disposés à le laisser une fois de plus nous briser. Mes amis, il fait tard. Et les temps deviennent sérieux. Je vous en prie, ne me dites pas que vous vous sentez concerné. Ne me dites pas que vous voulez que vos bien-aimés qui ne sont pas sauvés le soir. Quand vous passez des heures et des heures sur Internet ou devant la télévision, soyez honnête avec vous-même. Je ne sais pas comment conclure, Seigneur. C'est lui qui parle, David. Je ne sais pas comment conclure, Seigneur. Seigneur, aide-moi. J'ai le sentiment que sans doute ce n'est pas le cas pour toute l'Assemblée, mais qu'il est en train de parler à certains d'une façon très spéciale. Il est en train de parler à votre cœur comme au mien. Peut-être que vous n'avez pas besoin de prière, mais je vous sollicite. J'ai besoin de vos prières. Seigneur, j'ai juste à prier. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai prêché. Seigneur, ce que tu as déposé sur mon cœur, et je ne sais pas comment conclure. Tu vas le conclure. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux faire, Seigneur. Tu nous parles. Seigneur, je dois confesser que je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je suis supposé être. Dieu, je n'ai pas ton cœur, ni ton fardeau. J'ai été léger, j'ai voulu rendre les choses faciles. Je voulais juste être heureux. Mais Seigneur, la vraie joie vient du sein de l'angoisse. C'est là que se trouve la joie lorsque nous voyons les résultats de notre détermination à nous saisir de ton cœur, de nous saisir de ton cœur. Et qu'alors tu nous donnes des directions. Et qu'alors nous voyons des résultats durables. Nous voyons une ville entière venir à la repentance. Et là, Néhémie se lève et dit, maintenant c'est le temps de se réjouir. Que la joie du Seigneur soit votre force. Mais cette joie est venue de ce qu'ils avaient vu, la victoire qui était issue de la tristesse intérieure de l'angoisse. Je ne suis pas en train de réprimander cette église. Je ne suis pas en train d'essayer de jeter la pierre sur personne. Mais oh Dieu, si tu le fais pour quelqu'un, fais-le aussi pour moi. Je veux que mon cœur soit de nouveau brisé. Seigneur, je veux que tu m'introduises dans ton cœur et je veux ressentir les blessures et les besoins de ce peuple afin que je puisse prêcher ta pensée et ton cœur. Amen. J'ai lu le texte entier. Et si je me regarde, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes devant toi. Et moi le premier devant toi. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans ce monde si je perds l'éternité? Viens-nous en aide et que ta volonté se fasse. Amen. Amen.